bêtise, de cette bêtise d'ailleurs contenue par les auteurs auxquels je vais faire référence, avec le lieu commun, le cliché, le stéréotype. Ce qui les a intéressés, d'ailleurs, c'est la bêtise conversationnelle. Donc, je n'ai rien de bien nouveau à vous dire. Si ce n'est, c'est ce qui a un petit peu motivé cette prise de parole, vous faire entendre, ce qui pour moi est toujours un très grand bonheur intellectuel, vous faire entendre du Nathalie Sarraute. Je me placerai sous l'égide d'Albert Camus, qui dans un ouvrage qu'on lit assez peu, État de siège, écrit « La cruauté provoque, mais la bêtise démoralise ». Alors, à tout seigneur, tout honneur, c'est vrai que je vais quand même faire une légère et très courte allusion, enfin légère si j'ose dire, en tout cas une courte allusion à Roland Barthes, puisque Anne va en parler longuement. Vous vous souvenez que pour Roland Barthes, la bêtise se manifeste et réside dans ce qu'il appelle, je le cite, les langages ventouses. C'est-à-dire, au fond, les langages qui collent à une idée. Et d'ailleurs, chez lui, ceux qui connaissent bien ces textes, chez lui, il y a toute une isotopie du poisseux, du gluant, du collant, qui sont en fait tous ces mauvais états de la matière, tous ces états répulsifs de la matière, et pour lui, tout ce qui est de l'ordre de la bêtise, de la doxa, participe de cet état de la matière. D'où le fait que Roland Barthes, dans un fragment très connu, associe la bêtise à la figure de Méduse. Vous savez pourquoi j'ai besoin de revenir à cela, de Méduse, à la fois l'animal, cette espèce de masse gélatineuse, rentre dans l'isotopie du poisseux, du gluant, du collant, etc. Et donc, comme animal, masse gélatineuse, mais aussi comme personnage mythologique qui, vous le savez aussi bien que moi, pétrifie tous ceux qui la regardent, les change véritablement en pierre. Eh bien, et j'arrêterai là cette référence à Roland Barthes, cette référence initiale à Roland Barthes, comme Méduse, la bêtise nous pétrifie, on reste véritablement médusé, parce qu'il y a un pouvoir d'intimidation de la bêtise, mais, et c'est là où le rapport à Nathalie Sarraute va devenir important, mais aussi elle pétrifie le langage. Il ne faut pas simplement voir qu'elle nous pétrifie, comme Méduse pétrifiait ceux qui la regardaient, mais pour Lambarthe, elle pétrifie le langage, elle le change au fond en une espèce de chose inerte, et cette chose inerte qui nous empêche de penser, à savoir le lieu commun, transformation du langage en lieu commun. Alors, ne t'inquiète pas, je m'arrête là pour le petit rappel de ce que nous devons tous à Roland Barthes dans l'analyse de la bêtise, alias stéréotype, lieu commun ou doxa. Je regarderai plutôt Flaubert dans son rapport, enfin dans ce que les écrivains contemporains, sous le regard de la bêtise, et seulement sous le regard de la bêtise, ont pu en tirer. Nathalie Sarraute, bien sûr, et en conclusion, et je dirais un petit peu en forme de boutade, Eugène Ionesco. Il y a évidemment les écrivains contemporains qui ont une dette à l'égard de Flaubert sont évidemment extrêmement nombreux. L'étude a été très souvent faite. Moi, je ne regarderai cette, entre guillemets, dette que du point de vue de la bêtise, de la question de la bêtise. Alors, Nathalie Sarraute, je crois qu'il faut distinguer deux modalités du rapport entre Gustave Flaubert et Nathalie Sarraute, mais deux modalités qui ont partie liées. Il y a d'abord celle de l'écriture fictionnelle, les romans, les récits, les dialogues, dialogues d'ailleurs destinés au théâtre très souvent, mais pas toujours, et puis l'écriture critique. Mais vous allez voir que c'est surtout à l'écriture fictionnelle que je me suis intéressée. Alors, dans ces textes critiques, on découvre évidemment un intérêt tout à fait explicite de Nathalie Sarraute pour l'œuvre de Flaubert. Et d'ailleurs, cet intérêt se donne particulièrement à lire dans l'un de ses essais critiques qui est intitulé « Flaubert, le précurseur ». Mais cet intérêt apparaît peut-être de manière moins évidente, bien que le nom de Flaubert surgisse ça et là, mais aussi dans certaines de ses conférences sur le roman, comme « Roman et réalité », « Forme et contenu du roman », « Le langage dans l'art du roman ». J'arrête là. Donc vous voyez que dans les textes critiques de Nathalie Sarraute, on trouve explicitement un intérêt pour Flaubert, plus qu'un intérêt d'ailleurs, elle rend hommage à Flaubert, et nous verrons dans Flaubert le précurseur, le titre à lui seul le signifie, montrera comment le roman contemporain doit beaucoup, si ce n'est tout, à Flaubert. Alors, je passe au texte fictionnel. Dans les textes fictionnels, la proximité est évidente. Et cette proximité se manifeste dans ce qui constitue la matière même de son travail d'écrivain, à savoir l'emportement du langage, ce qu'elle appellera tropisme. Donc il y a un emportement du langage, mais en même temps, paradoxalement, qu'un enlisement dans le langage, les lieux communs. Et cet emportement du langage, les tropismes, et l'enlisement dans le langage, les lieux communs, forment pour elle la substance même des échanges sociaux et la réalité des drames de la condition humaine, dans le mouvement même par lequel ceux-ci tentent de la cacher. C'est-à-dire qu'au fond, les lieux communs, pour elle, constituent cette réalité des drames de la condition humaine en même temps qu'ils servent à la dissimuler et à la cacher. Donc on voit bien tropisme et lieu commun. Ce qui intéresse tout particulièrement Sarraute et la rapproche bien évidemment d'une des préoccupations de Flaubert, d'un Flaubert fasciné jusqu'à l'hébétude par la bêtise, autre nom de l'usage commun de la parole, c'est le langage en tant qu'il est justement matière à cet usage commun. Je cite la préface à l'ère du soupçon. L'ère du soupçon avait d'abord paru en deux livraisons dans les temps modernes. Et puis l'ère du soupçon, les deux articles complétés d'ailleurs d'un troisième, ont paru en volume en 1956. Et dans la préface à ce texte, souvent cité d'ailleurs, fut une époque d'ailleurs, on lisait constamment l'ère du soupçon de Nathalie Sarraute, voilà ce qu'elle écrit. Mon premier livre, Tropisme, donc je vous rappelle, Tropisme 1939, mon premier livre, ce n'est pas elle qui parle de tropisme, enfin le premier livre c'est tropisme. Mon premier livre contenait en germe tout ce que dans mes ouvrages suivants, je n'ai cessé de développer. Les tropismes ont continué à être la substance vivante de tous mes livres. Seulement, ils se sont déployés davantage. Et là, je vous demande de faire attention à ce qui va suivre. L'action dramatique qu'il constitue, c'est ce que je vous disais, ces espèces de drames souterrains, ces drames masqués par le lieu commun, le cliché, le stéréotype et le tropisme, c'est-à-dire cet entraînement du langage. L'action dramatique qu'il constitue, donc, c'est allongé et aussi c'est compliqué. Et aussi, pardon, c'est compliqué ce jeu constant entre eux et les apparences, ces lieux communs sur lesquels ils débouchent au dehors. Nos conversations, le caractère que nous paraissons avoir, ces personnages que nous sommes les uns aux yeux des autres, les sentiments convenus que nous croyons éprouver et ceux que nous décelons chez autrui. Et cette action dramatique superficielle constituée par l'intrigue qui n'est qu'une grille conventionnelle que nous appliquons sur la vie. Voilà ce que dit Nathalie Sarraute en revenant en arrière, si vous voulez, en réfléchissant sur ce premier livre, Tropisme, et avec le recul que lui donne, évidemment, la publication d'autres textes, n'est-ce pas, qui, comme elle nous le dit, ont exploré et exploité la même veine. À retenir l'idée de drame, l'idée aussi de superficialité, pour le reste, lieu commun, conventionnel, etc. Alors, il faut tout de suite bien comprendre, parce que c'est là où se marque peut-être, quoique, vous verrez que je n'en suis pas si sûr, une relative différence avec le travail de Flaubert. Tropisme n'est pas truisme. Tropisme, c'est un mouvement involontaire qui nous porte, d'ailleurs, quand elle n'en donne pas véritablement la définition, mais dans cette même préface, lorsqu'elle interroge le mot de tropisme, elle dit qu'à l'époque, le mot de tropisme était à la mode. C'était un terme du vocabulaire de la biologie, qui montrait une sorte d'entraînement, hein, d'entraînement des molécules, etc., une espèce de penchant, hein, quelque chose qui serait de l'ordre... J'assistais, il y a deux jours, à des conférences du philosophe et sinologue François Julien qui montrait que la pensée chinoise fonctionne justement de cette manière-là. Il n'employait pas le mot de tropisme, mais par entraînement, par penchant. Il n'y a pas d'opposition, les choses s'enchaînent comme ça parce qu'elles ont une propension. Il faudrait dire peut-être la propension. Donc, tropisme. Je suis fatiguée le matin, hein, c'est pas... Tropisme, c'est donc ce mouvement involontaire qui nous porte et nous entraîne là où la conscience n'a pas choisi d'aller. Mais attention, Nathalie Sarraute n'est pas du tout l'écrivain de l'exploration de l'inconscient. Pas du tout. La conscience n'a pas choisi d'aller, mais ça ne veut pas du tout dire que ça trahirait ou ça traduirait quelque inconscient du locuteur. Alors, je vous ai déjà dit ce qu'il en était, je la cite. « Tropisme était dans l'air, je pensais qu'il pourrait s'appliquer à ces sortes de mouvements instinctifs qui sont indépendants de notre volonté. » Et on verra d'ailleurs que ces mouvements instinctifs sont aussi des mouvements qui sont dictés par le langage lui-même, comme une espèce d'entraînement, c'est pas, de la parole. La propension à la parole à aller vers. Au moment où elle écrit cela, je vous dis que ça n'a rien à voir avec la question de l'inconscient, Nathalie Sarraute ne songe pas à Flaubert. Elle songe plutôt aux flux de conscience tels qu'ils apparaissent chez des écrivains qu'elle est redevable, bien qu'elle en ait assez peu parlé, Joyce ou Virginia Woolf. D'ailleurs, Virginia Woolf, pour justement ces flux de conscience, mais on verra que c'est là où s'arrête pour elle la référence à Virginia Woolf, parce que justement, ça ne s'est pas développé dans les dialogues et dans l'utilisation du lieu commun, comme cela a été le cas chez Flaubert. Et Joyce et Virginia Woolf seront très vite recouverts par la référence à Flaubert. Alors... Donc, elle songe plutôt à ces flux de conscience, mais dès ce premier livre, donc dès Tropisme, comme dans les suivants, notamment celui qui va suivre immédiatement Tropisme, Portrait d'un inconnu, qui se propose la même exploration de ces flux de conscience, elle découvre, et c'est ça qui va la rapprocher de Flaubert, elle va découvrir sous ces mouvements involontaires qui agitent en nous des strates non conscientes, elle va découvrir la main invisible d'un discours social ossifié. Au fond, elle va découvrir que le tropisme est aimanté par le truisme. Je vous ai dit que le tropisme n'est pas le truisme, mais elle va découvrir que ce mouvement non conscient, cette propension qui nous fait aller assez là, est en fait, de manière invisible, aimanté par ce que j'appellerais ce discours social ossifié l'altruisme, alias le lieu commun. Mais inversement, et c'est ça qui est passionnant dans son travail, inversement, elle va aussi découvrir que le lieu commun, par une série de glissements langagiers, se prolonge pour donner naissance à une série d'associations, l'étropisme. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de rapport dialectique, si vous voulez, enfin dialectique non, parce qu'il n'y a pas de dépassement, une espèce de va-et-vient entre l'un et l'autre. L'eutropisme est mu souterrainement par l'altruisme, mais en même temps, l'altruisme se prolonge en association invisible, hein, en série, qu'elle va exploiter dans ses livres et qui souvent forme la matière même de son écriture. Alors, il faudrait peut-être ici donner quelques exemples. Il y en a tellement, je vous dis, j'aurais dû arriver avec quelques pages de Nathalie Sarraute, vous les auriez entendues et ça aurait été infiniment mieux. Je vous dis parce qu'on est à chaque fois ébloui par cette acuité intellectuelle et aussi cette qualité d'écriture. Bon, fin de la parenthèse, soit portrait d'un inconnu. Dans portrait d'un inconnu, la situation est la suivante. Bon, c'est met en scène une sorte de père avaricieux. Mais le passage que je vais citer, qui est très très court, hein, se situe juste à un moment du texte où le père refuse de l'argent à sa fille. Ce père avaricieux refuse de l'argent à sa fille. Et là, vous allez voir que là, il y a une suite de paroles rapportées, et de scènes conversationnelles où s'enchaînent justement les lieux communs, et où ce sont les mots qui finissent par conduire le dialogue. Comme si les mots prenaient le pouvoir avant de retourner au silence auquel les a arrachés une communication impossible. Eh bien, ce phénomène affleure chez Flaubert. Il n'est pas développé, mais il affleure chez Flaubert. Et c'est ce phénomène qui est au cœur du travail de Nathalie Sarraute. L'idée que finalement les mots conduisent le dialogue, hein, comme s'ils arrivent, ils prenaient le pouvoir avant de retourner au silence. Alors, exemple, parce que j'aurais pu vous lire des pages et des pages, mais exemple de ces lieux communs qui constituent comme ça des séries. Alors, exemple 1, si ce n'est pas malheureux de voir ça et dire qu'il n'a qu'elle au monde, ah, il n'emportera pas avec lui, allez, bon, etc., etc. Vous voyez bien ici l'usage qui peut être fait du propos convenu. Mais ce propos convenu, comme je vous disais, prend le pouvoir d'une certaine manière. Et je voudrais vous montrer comment ça fonctionne dans l'exemple numéro 2 tiré toujours de Portrait d'un inconnu. D'ailleurs, en le lisant, je ne pouvais que songer à Bouvard et Pécuchet parce que le père vient d'acheter une espèce de domaine en Normandie et il s'agit de savoir ce qu'on va planter. Alors, une discussion sur les arbres qu'on va planter, qu'est-ce qu'il faut planter, etc. Je vous lis. Vous allez planter des arbres. Vous allez planter des pommiers. Alors, je cite. Moi, les pommiers, c'est l'arbre de la région. Moi, deux points. Les pommiers, c'est l'arbre de la région. Mon oncle fabriquait un cidre qui valait le meilleur cidre normand. Du Montet. Ah, du cidre. Je pense bien que nous en ferons. Mais il me conseille de planter des pommes d'hiver. Longtemps encore, nous continuons. Du Montet, la fille, le père, moi, Du Montet, le père, la fille. Et la conversation continue, mais à la brèche, elle ne donne plus que le nom des locuteurs. Du Montet, la fille, le père, moi, Du Montet, le père, la fille. Et puis, deux points. Les pommes à cidre, les pommes d'hiver, la Saint-Laurent, le rouleau rouge, la pâte d'oie, et ça va continuer, on revient, la pomme, les pommes d'hiver, hiver, bon, voilà. Autre exemple tiré de tropisme, sur la question des lieux communs. Il s'agit d'elles, je suppose que ce sont donc personnages féminins. Elles allaient dans des thés, elles restaient là, assises pendant des heures. Elles parlaient. Il y a entre eux des scènes lamentables, des disputes à propos de rien. Je dois dire que c'est lui que je plains dans tout cela quand même. Combien ? mais au moins 2 millions. Et rien que l'héritage de la tante Joséphine, non. Comment voulez-vous? Il ne l'épousera pas. C'est une femme d'intérieur qu'il lui faut. Il ne se rend pas compte lui-même. Mais non, je vous le dis, c'est une femme d'intérieur qu'il lui faut. D'intérieur. D'intérieur. On le leur avait toujours dit. Et comment, d'ailleurs, dans C'est une femme d'intérieur qu'il lui faut, on pourrait penser à la conversation chez les Ambreuses, hein, le bras de fer qu'il nous faut, etc. Alors, je m'arrête un instant sur d'intérieur, puis vous voyez, ça dysfonctionne, tout d'un coup, ça se répète. En fait, c'est une involontaire ou volontaire boutade, puisque justement, le lieu commun, en tant que discours de l'extériorité qui s'est introduit dans l'intériorité et en occupe le lieu, arrase précisément l'opposition entre intérieur et extérieur. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que tout d'un coup, la conversation va se transformer en une espèce de bruit de fond. Et on pense, par exemple, aux bourgeoises de Yonville, ou on pense au commère de Pont-l'Évêque, enviant à Madame de Saint-Aubin sa servante Félicité. Sauf que Flaubert ne les fait pas parler au discours direct, hein, et que ce bruit de fond longtemps, etc., les commères de Pont-l'Évêque, Envières, bon. Sauf que ce bruit de fond est rendu à l'indirect libre, manière esthétiquement différente, je le reconnais, hein, esthétiquement différente, mais de rendre ce qui est malgré tout constitutif de la poétique de Nathalie Sarraute et de celle de Flaubert, une répulsion et en même temps une fascination pour le lieu commun, qu'il soit langagier ou idéologique. Alors dans la scène que je vous ai citée, où on voit, on entend plutôt, parce qu'on ne voit rien, où on entend ces femmes parler, il y a un autre aspect du lieu commun, c'est la parlerie. Au fond, on s'aperçoit qu'il s'agit qu'on a affaire à une parole bouche vide. Bouche vide, non pas la bouche vide, bien que ce soit cela aussi, mais comme on dirait bouche trou, qui procède d'un déjà dit social et n'en sort pas. Et là, pour se rendre compte, pour préciser les choses, je ferai référence à une pièce de théâtre que j'avais vue représentée en son temps, que je trouve admirable d'ailleurs, qui s'appelle Isma. Il faut que vous compreniez que là aussi, on est dans une situation conversationnelle. On suppose qu'il y a eu un dîner. Il ne faut jamais partir les premiers d'un dîner parce que, évidemment, on fait les frais de la conversation. Et les Dubuis ont eu le malheur de partir les premiers. Et évidemment, tout le monde s'acharne sur les Dubuis que l'on juge prétentieux, snob, insupportables, etc. Et surtout dans cette façon qu'ils ont de prononcer les mots qui se terminent par isme. Ils ont une manière de dire « isme, isme », bon, qui est évidemment grotesque et qui est au fond leur plus grand péché. Mais, ça se développe pendant toute la pièce. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, un des personnages considère qu'on pourrait peut-être parler d'autre chose que des Dubuis, que ça suffit comme ça, puis que de toute façon c'est d'une méchanceté à l'égard d'amis communs qui ne devraient pas avoir lieu, et donc essaie de modifier le cours ou de changer le cours de la conversation. Et voilà ce qui est écrit, enfin ce qu'on peut lire dans la pièce à propos du lieu commun. Alors les personnages, et revenir, n'ont pas de nom propre. Ici, ils s'appellent H, H2, H1, H3 ou F, F3, etc. H quand ce sont des hommes, vous l'avez bien compris, F quand ce sont des femmes. H2, à propos du lieu commun. Ce n'est pas ce qu'on s'échange, H1. Mais si, et pourquoi pas? Alors là, j'ai coupé parce que c'était trop long. H3, on partage notre petit stock. Elle, résignée, oui, une vraie dot qu'on nous a préparée depuis notre enfance. F3, ironique, où nous puisons en cas de besoin. Et cet usage du lieu commun comme dot, où nous puisons en cas de besoin. Lui, il n'y a rien à faire. Je le vois partout. Dès que les gens se mettent à parler, comme ça, ça y est, je plaque ça dessus. H2, quoi ça? Lui, eh bien l'échange de lieux communs, des clichés, quoi. Moi aussi j'ai coupé. Ça ne vous gêne pas de vous être laissé retomber là-dedans? F2, que voulez-vous? On ne pouvait pas faire autrement. Il fallait bien meubler le silence. Donc vous voyez bien ici, cette fonction justement du lieu commun, ce que j'appelle la parlerie, cette parole bouche vide, qui est en même temps, et c'est ça qui est intéressant, hein, l'idée que nous y puisons en cas de besoin, mais que ça constitue notre dot, une dot constituée depuis l'enfance. Alors, ce que montrent les textes de Nathalie Sarraute, si on repart de tropisme, je vous disais la parlerie, après j'ai pris l'exemple de Bisma, mais c'est aussi, elle travaille particulièrement l'impersonnalisation du lieu commun, c'est-à-dire le propos sans véritable sujet d'énonciation. Ce qui fait d'ailleurs qu'il n'y a pas à proprement parler de personnages dans les romans de Nathalie Sarraute. Hein. Ceux-ci sont en effet ventriloqués par les discours sociaux jusqu'à la dépersonnalisation ultime, la perte du nom propre. Alors vous allez me dire, c'est quelque chose qui s'est retrouvé dans tout le, ou presque, je dis tout, il ne faut pas exagérer, il faut toujours être prudent, dans presque tout le nouveau roman, cette absence. Mais là, si vous voulez, il y a une espèce de fonction de cette absence de nom propre, parce qu'il n'y a pas de propre, la parole ne s'énonce pas en propre, et c'est bien ce qu'elle veut montrer, et la question est toujours aussi celle d'ailleurs qui sera posée dans Beckett, hein, parce que j'aurais pu prendre évidemment des textes de Beckett, mais ça aurait été plus je préférais me centrer sur Nathalie Sarraute, parce que je ne voulais pas tout mélanger. La question de Beckett, qui parle? Tout le monde et personne. Et finalement, au bout de, si vous voulez, lorsqu'il y a ces échanges langagiers, au bout d'un certain temps, apparaît, sous la plume de Nathalie Sarraute, le « on » de l'impersonnalisation du discours, ce « on » très fréquent chez Flaubert. On retrouve ce même « on » et ce même usage du « on ». Mais peut-être que Nathalie Sarraute va plus loin que Flaubert, parce que justement, chez elle, les sujets parlants sont non identifiés. Je vous le disais, ils n'ont pas de nom propre. Il y a juste parfois des pronoms personnels, des « il » ou « elle », mais qui se défont en se fondant peu à peu dans un « on », comme s'il n'était que les voix d'une matière langagière et idéologique anonyme qui s'écoule à travers eux. Ce qui fait que le sujet parlant est interchangeable. Pas de sujet individué, du fait de la communauté du lieu commun. Alors, chez Flaubert, je vous le disais, cet anonymat, évidemment, existe, et il fait des sujets de simples supports d'un discours qui vient d'ailleurs et qui les traverse, mais l'impersonnalisation va jusqu'à la disparition de cette individuation qui se fait par le nom, eh bien ça ne concerne que des figurants. Il n'y a que les figurants, ceux qui sont dans l'arrière-fond, si vous voulez, hein, du tableau, qui disparaissent derrière une espèce de on ou de parole, comme ça, vague, qui n'est plus situable ou situé. Un exemple parmi des milliers, dans l'éducation sentimentale, lorsque Frédéric Moreau retourne à Nogent, il est sur le bateau, et on voit différentes maisons sur les berges de la Seine. Elles avaient des jardins en pente que divisaient des murs neufs, des grilles de fer, des gazons, des serres chaudes et des vases de géranium espacés régulièrement sur des terrasses où l'on pouvait s'accouder. Plus d'un, c'est qui plus d'un? C'est pas encore le on, j'aurais pu donner des exemples du on, mais vous en connaissez. Plus d'un, en apercevant ces coquettes résidences si tranquilles, enviait d'en être le propriétaire pour vivre là jusqu'à la fin de ses jours avec un bon billard. Plus d'un, évidemment chez Nathalie Sarraute, l'indirect serait passé au dialogue direct. Ah, que ce serait bien de bon. Alors, le lieu commun chez Nathalie Sarraute, comme d'ailleurs chez Flaubert, est à la fois une pensée rebattue jusqu'à l'usure de sa capacité à produire de la réflexion. Vous voyez, donc il est rebattu jusqu'à l'usure de sa capacité à produire de la réflexion, et évidemment de ce fait, il est apte à devenir le lieu de rencontre de la communauté. Donc dans Isma, et je vous cite à nouveau un tout petit passage de la citation que je vous ai lue tout à l'heure, à propos du lieu commun, H2, ce n'est pas ce qu'on s'échange. H1, mais si. Et pourquoi pas? Le lieu commun, c'est là où l'on se rencontre. Le lieu commun, c'est là où on se rencontre. Et d'ailleurs, cela est également vrai, et Flaubert le sait très bien, des échanges privés. Ce n'est pas simplement dans la situation conversationnelle où il y a plusieurs locuteurs. Cela est également vrai des échanges privés. Pensez à la conversation entre Emma et Léon, sous-tendue justement par un comme moi, où ne s'échangent que des platitudes, des lieux communs sur la montagne, la mer, etc. Jean-Paul Sartre, dans sa préface, parce qu'il a écrit une préface, Jean-Paul Sartre admirait beaucoup le travail de Nathalie Sarraud, et il a écrit une préface à Portrait d'un inconnu. Et Jean-Paul Sartre explique mieux que quiconque, d'ailleurs, je pourrais m'arrêter là, parce qu'il dit tout de manière concise et claire, il a très bien compris le fonctionnement social du lieu commun. Je cite Jean-Paul Sartre, je cite cette préface à Portrait d'un inconnu. Chacun s'y retrouve. Il retrouve les autres. Le lieu commun est à tout le monde et il m'appartient. Il appartient en moi à tout le monde. Il est la présence de tout le monde en moi. Ce n'est pas tout à fait la même chose, une espèce de progression. C'est par essence la généralité. Pour me l'approprier, il faut un acte. Un acte par quoi je dépouille ma particularité pour adhérer au général, pour devenir la généralité. Et bon, je crois que tout ceci pourrait s'appliquer à l'usage que fait Flaubert du lieu commun. Mais en écoutant Sartre, il ressort, je dirais, une sorte de double danger du lieu commun. Premièrement, à travers le lieu commun, c'est la communauté qui devient sujet parlant, le « je » se perd dans un « on » qui très vite, là le mot généralité, c'est la généralité, etc., qui devient un « tous » et dans le passage de « on » à « tous », on découvre le totalitarisme langagier, le totalitarisme idéologique qui n'est jamais bien loin du lieu commun. Voir le fameux dîner chez les Dambreuses, hein, où tous voulaient être un sauveur. Tous voulaient un sauveur. Pour des raisons extrêmement diverses, mais tous. Vous voyez, chez Flaubert aussi, on a le tous. Donc ce danger de totalitarisme. Je vous dis, langagier, bon, mais idéologique, c'est beaucoup plus grave. Et deuxièmement, l'autre danger, mais ils ont partie liée. Le lieu commun, c'est ce discours que parle la communauté, se présente comme celui d'un « on » dont les titres à être un sujet collectif, parce que qu'est-ce qui fait de ce « on » un sujet collectif, dont les titres à être un sujet collectif se perdent dans la nuit des temps. C'est-à-dire, se perdent dans la nuit des temps, c'est-à-dire au temps où le lieu commun a été proféré pour la première fois. Là, c'est « il était une fois ». Mais du coup, ça lui confère sa légitimité et ça entraîne son caractère prescriptif et normatif. On le leur avait toujours dit. Souvenez-vous de cette parlerie hein, de ces femmes dans le salon de thé. On le leur avait toujours dit. On leur avait toujours dit que... Bon. Alors là, on rencontre évidemment ces dangers et on s'aperçoit que ça entraîne, que cette bêtise devient dangereuse parce que... On y rencontre le dogmatisme, la satisfaction de soi, puisque c'est une parole légitimée, c'est une parole pleine, la plénitude, elle vous donne autorité, assurance, d'où l'assurance d'ailleurs du sujet bête, dont le type chez Flaubert est pour moi beaucoup plus sommet que Bouvard ou que Pécuchet. Souvenez-vous de scènes où on voit Homais tout le temps discourir, Homais parlait, il expliquait à la compagnie, il s'autorise. Alors, ce que... je regarde, je suis trop longue, non ? Parce que j'ai plein de choses. Alors, je vais aller vite.
Tu as encore 20 minutes.
Bon, alors c'est vrai. Je vais aller très vite. Ce que Nathalie Sarraute, je vais abréger, hérite de Flaubert, c'est cette problématique du lieu commun et de son traitement par l'art et la littérature. Alors, chez elle, comme chez Flaubert, il y a le sentiment que l'écriture se construit à l'aide des lieux communs, mais dans le même temps qu'elle se construit contre eux. Car le propre de la littérature, c'est précisément de se séparer du langage commun en lui faisant perdre sa banalité. Elle n'est pas la seule, mais elle est sans doute l'une des plus représentatives d'une préoccupation, je vous disais, que l'on retrouve chez Beckett, chez Pinget, et aussi chez Ionesco, pour ne citer que cela. Le rapport à Flaubert, on le voit dans le fait que tous ces textes sont engagés dans ce qu'elle appelle l'usage de la parole, qui est le titre d'un de ses livres, et ils naissent de la mise en forme des tropismes. Alors, avant de terminer, je voudrais m'arrêter quelques instants sur l'article qu'elle consacre, ou le petit essai, le court essai qu'elle consacre à Flaubert, Flaubert le précurseur. On peut y lire. En ce moment, notre maître à tous, c'est Flaubert. Sur son nom, l'unanimité s'est faite. Il est le précurseur du roman actuel. Son œuvre, dit-on, répond aux préoccupations, aux exigences des écrivains d'aujourd'hui. C'est là un point indiscuté. Alors, pourquoi une telle unanimité? Eh bien, nous dit Nathalie Sarraute, et là je vais vite, parce que Flaubert est le premier pour qui la forme joue le rôle prédominant. Et au fond, ce qui intéresse à l'époque où écrit Nathalie Sarraute, c'est le Flaubert du livre sur rien, ou du prétendu livre sur rien, dont le nouveau roman tirait sa légitimité. Mais Nathalie Sarraute, et c'est ça qui est intéressant, déconstruit complètement cette idée reçue, en procédant à une critique très sévère de Salambeau et de l'éducation sentimentale. D'ailleurs, c'est une critique qui rejoint ce que, dans les cahiers de la drôle de guerre, qu'elle ne pouvait pourtant pas connaître, Le style parnassien, les descriptions convenues, les platitudes, les clichés, rien, nous dit-elle, qui fasse éclater la phrase traditionnelle et donne au mot un sens neuf. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de recherche de la sensation pure. En revanche, pour Nathalie Sarraute, c'est avec Madame Bovary que Flaubert découvre une substance romanesque nouvelle, c'est Dieu, qui véritablement fait de lui le précurseur du roman moderne. Je cite Nathalie Sarraute, « S'il fallait apporter la preuve que ce qui compte en littérature, c'est la mise au jour ou la recréation d'une substance psychique nouvelle, aucune œuvre mieux que Madame Bovary ne pourrait y parvenir. » Alors ne t'inquiète pas, j'en arrive au deuxième et dernier point. En effet, que se passe-t-il dans Madame Bovary? Eh bien, les clichés se projettent sur d'autres clichés. Bon, comme dans l'éducation sentimentale. Mais dans un jeu de trompe-l'œil qui vient de ce qu'ils ont... Ils sont pris dans la sensation pure. Et Nathalie Sarraute va choisir deux exemples de ce qu'elle appelle cette exceptionnelle réussite. Le bal à la Vaubyessard et la scène des comices agricoles. Je laisse le bal à la Vaubyessard. Le choix de cette dernière scène, les comices agricoles, est très intéressant. En effet, il est révélateur de ce qui intéresse Nathalie Sarraute, et dont Flaubert pour elle est le précurseur. Un certain usage du dialogue qui confirme l'emprise de la bêtise sur les êtres parlants, ça, rien de nouveau, emploi des stéréotypes, utilisation des formules convenues, recours à un langage figé, mais, et tout est là, par ailleurs, et en même temps, la mise en évidence des drames qui se dissimulent derrière les paroles convenues et qui ne livreront pas leurs secrets sous forme d'actes. Je cite Nathalie Sarraute. Le lecteur pressent derrière les paroles des mots plus nombreux, plus subtils et plus secrets que ceux qu'il peut découvrir dans les actes. Pas d'extériorisation. C'est pour Nathalie Sarraute ce qu'a très bien compris Flaubert et qu'il a admirablement rendu dans le jeu entre la conversation et ce qu'elle appelle la sous-conversation. Voilà, il y a un texte, il y a un essai critique qui s'appelle « Conversation et sous-conversation ». Vous voyez donc que c'est ça qui fait de Flaubert le véritable précurseur aux yeux de Nathalie Sarraute. Il a compris l'importance du dialogue pour le roman moderne, là je cite... Mais il ne s'agit pas de dialogue tel que pratiqué par le roman balzacien, etc. Il s'agit d'un dialogue, j'aurais voulu expliquer plus longuement, mais on pourra en discuter. Il s'agit d'un dialogue, d'ailleurs Nathalie Sarraute préfère souvent le terme de conversation, qui laisse entrevoir derrière les mots échangés le foisonnement des innombrables sensations que perçoivent les locuteurs et par lesquels ils sont traversés. Je cite, enfin Flaubert dans sa correspondance dit bien d'ailleurs ce qu'il veut faire dans la scène des comices. Hein. Si jamais les effets d'une symphonie ont été reportés dans un livre, ce sera là. Il faut que ça hurle par l'ensemble, qu'on entende à la fois le beuglement des taureaux, des soupirs d'amour et des phrases administrateurs. Et il faut bien dire qu'on les entend. Mais en même temps, on entend tout ça, mais en même temps, et cela pour Nathalie Sarraute est beaucoup plus fort, on ressent aussi ce que sentent Emma et Rodolphe par-delà les mots, les sons, les discours, le bruit. Comment ce brouhaha parvient à eux? Comment ces images qui se superposent sont perçues par eux dans le moment même où leur échange les soustrait à la scène? Mais surtout, ce que réussit Flaubert, c'est un dialogue qui fait entendre derrière les paroles convenues ou la rhétorique dévaluée les drames qui se cachent et qui ne parviennent pas à passer à l'acte, pour reprendre la formule de Nathalie Sarraute. Un dialogue où le lecteur pressent derrière les propos échangés des mots autres, des mots vibrants, intenses, subtils, secrets, les mots correspondant au mouvement intérieur, à ce non-dit qui transpire sous la banalité de la conversation. C'est cela que Nathalie Sarraute appelle la sous-conversation. Ce que veut parvenir à faire Nathalie Sarraute, et qu'elle croit trouver chez Flaubert, c'est un dialogue qui se situe dans un lieu qui existe dans la réalité, quelque part sur cette limite fluctuante qui sépare la conversation de la sous-conversation. Alors le dialogue tout vibrant de ces drames non dits, et je cite Nathalie Sarraute, serait, quelle que soit sa banalité apparente, aussi révélateur que le dialogue de théâtre. Rien d'autre que de la rhétorique usée dans les propos de Rodolphe. Mais cette rhétorique exprime le désir du séducteur. Rien d'autre que de la rhétorique romantico-mondaine dans ceux d'Emma, qui pourtant parle de sa souffrance et de son besoin d'amour. La sous-conversation vient corriger ce que nous avons tendance à oublier, à savoir qu'à travers le lieu commun, la vérité et la profondeur d'un sentiment peuvent s'exprimer. Ce reflet des mouvements intérieurs dans le cliché conversationnel, c'est ce que Nathalie Sarraute trouve chez le Flaubert de Madame Bovary. Derrière la conversation vide, la sous-conversation chargée, sauf dans celle de Charles où l'on chercherait en vain le mouvement de l'âme qui s'y dissimule, souvenez-vous, la conversation de Charles était plate comme un trottoir de rue et les idées de tout le monde y défilaient dans leur costume ordinaire sans exciter d'émotion, de rire ou de rêverie. Je vous lirai tout à l'heure, mais pas maintenant, un petit passage dans l'usage de la parole qui montre justement le fonctionnement de cette sous-conversation et qui montre ce que peut être la naissance de l'amour dans sous ses clichés, ses stéréotypes, etc. On pourrait lire aussi un fragment d'un discours amoureux, le « Je t'aime » de Roland Barthes. Mais j'abrège pour terminer, pour conclure sur Ionesco. Vous l'avez compris, chez Nathalie Sarraute, tandis que la conversation poursuit tranquillement son cours, et elle dit « c'est la même chose » chez le Flaubert de Madame Bovary. Tandis que la conversation poursuit tranquillement son cours, faite de clichés, de stéréotypes, de lieux communs, de banalités, bref, de bêtises, il y a par derrière une agitation de plus en plus forte. Mais chez Nathalie, cette agitation de plus en plus forte, chez Nathalie Sarraute, elle finit par sortir, car des mots surgissent, se bousculent, affluent. Chez Flaubert, ce surgissement reste contenu sous le couvercle du lieu commun, ou tenu en lisière, et c'est autre chose, par l'ironie. Le cas d'Ionesco, ça c'était plutôt pour terminer sur une note comique. J'ai choisi de vous parler de la cantatrice chauve, pièce ou anti-pièce, comme l'écrit Ionesco, qui est, ou non d'ailleurs, une parodie du théâtre bourgeois, et qui, à partir d'une critique des clichés de la conversation petite bourgeoise, met en scène justement le dérèglement du dialogue qui aboutit à un effondrement du réel et des rapports sociaux. C'est là où Flaubert ne va pas. Et ça s'arrête. Ce qui est intéressant dans cette pièce, à mes yeux, c'est qu'en se déréglant, le dialogue fait de la langue un instrument de découverte de l'étrangeté du monde. Pour découvrir évidemment cet hallucinant désordre, il suffit d'arracher les mots aux conventions langagières. C'est ce que fait la poésie. Et c'est ce qui fait aussi qu'elle échappe à la bêtise. Et si l'on pousse jusqu'à l'absurdité, ce que fait le théâtre de Ionesco, alors le monde devient loufoque. Et on s'aperçoit, au fond, que le stéréotype est une sorte de garde-fou ou de garde contre la folie du monde, comme de la folie des hommes. Le choix voulu d'un couple, de deux couples de petits bourgeois, vient du fait que pour Ionesco comme pour Flaubert, le petit, pour Ionesco, le bourgeois pour Flaubert, est l'homme des idées reçues, des slogans, du conformisme idéologique et social. Et ce que montre Ionesco, c'est que les Smiths et les Martin, habitués à la parole préfabriquée, ne savent plus penser. Mais aussi, et c'est là où il va plus loin, que l'absence de pensée finit par engendrer le détraquement du langage qui s'affole dans le vide. Alors, ça commence évidemment par monstration de la banalité des sujets et des thèmes de la conversation conjugale. De quoi parle-t-on ? Ben, de la nourriture, de la maison, des enfants, du temps qui fait, etc. Alors, ça commence par la nourriture. Oui, ils sont à table. Nous avons mangé de la soupe, du poisson, des pommes de terre au lard. On songe peut-être, mais évidemment c'est moins loufoque, à certaines scènes de dîner entre Charles et Emma. Je cite, « Il y avait pour le dîner de la soupe à l'oignon, avec un morceau de veau à l'oseille. Charles assis devant Emma, dit en se frottant les mains d'un air heureux, « Cela fait plaisir de se retrouver chez soi. » Je continue sur Ionesco. « Les pommes de terre sont très bonnes avec le lard. L'huile de la salade n'était pas rance. L'huile de l'épicier du coin est de bien meilleure qualité que l'huile de l'épicier d'en face. » Elle est même meilleure que l'huile de l'épicier du bas de la côte. Mais je ne veux pas dire que leur huile à eux soit mauvaise. Fin de citation. Marie a bien fait cuire les pommes de terre ce soir. Cependant, la soupe était peut-être un peu trop salée. C'est une conversation que Madame Smith conduit toute seule pendant que Monsieur Smith lit son journal, ce qui est un cliché situationnel. Puis ça va enchaîner sur des vérités premières ou des idées reçues. Tous les docteurs ne sont que des charlatans. La vérité ne se trouve pas dans les livres, mais dans la vie. Et puis, les stéréotypes culturels sont poussés jusqu'au loufoque et au burlesque. Le yaourt est excellent pour l'estomac, les reins, l'appendicite et l'apothéose. Et on aurait presque le tropisme. Les faux proverbes, ou dictons censés émaner de la sagesse populaire. Celui qui vend aujourd'hui un bœuf, demain aura un œuf. Dans la vie, il faut regarder par la fenêtre. On peut prouver que le progrès social est bien meilleur avec du sucre. Monsieur Martin, on ne fait pas briller ses lunettes avec du cirage noir. Madame Stiss, oui, mais avec de l'argent, on peut acheter tout ce qu'on veut. Alors, j'arrête là. La prolifération des clichés et des automatismes langagiers fait découvrir le vide du langage, si bien qu'à la fin de la pièce, on assiste à son explosion. Il ne s'échange plus que des paroles vides de sens. Et en se défaisant, le langage révèle la stupidité des échanges langagiers convenus, comme ceux qui ont cours dans certaines situations sociales, comme la conversation de ou d'après dîner. Et ça, voilà comment ça se termine. « Touche pas ma babouche, bouge pas la babouche, touche la mouche, mouche pas la touche, la mouche bouge, mouche ta bouche, etc. » J'arrête cette logorée. Ce passage au langage automatique dénonce en fait l'automaticité du langage de la conversation précédente. Cependant, et je conclurai là-dessus, cependant derrière la bouffonnerie se découvrent les tensions croissantes que masque généralement la consensualité du lieu commun. Il suffit d'un léger séisme qui fissure le bloc dur du stéréotype, voire Roland Barthes, pour que la violence que le stéréotype permet de ou sert à contenir se déchaîne. Dans la leçon, autre pièce de Ionesco, le professeur finit par étrangler son élève. Dans la contractrice chauve, les Smiths et les Martin n'en viennent pas aux mains, mais c'est tout juste. À la montée en puissance du dérèglement verbal correspond le paroxysme de l'exaspération des commensaux. Filtre alors la haine. Et là, on découvre une des fonctions sociales du lieu commun. Canaliser la violence des individus, et cela paradoxalement en raison même de la violence, ou si l'on veut, du terrorisme, que le lieu commun exerce sur chacun. Voyons ce que dit Nathalie Sarraute. Je la cite. « Tout le langage employé est déjà plein à craquer de l'autorité. L'autorité de tous ceux qui ont instauré le langage et qui l'ont employé. qui nous l'ont appris, qui y recourent, et écoutez bien, comme à une couverture qu'on jette sur le feu. Jette la couverture sur le feu, canalise la violence. Évidemment, c'est différent de l'huile de l'épicier du coin, justement, qui va mettre de l'huile sur le feu, et petit à petit, on va avoir une espèce d'explosion de haine. Bon. D'ailleurs, c'est la fonction que le lieu commun a, je vous l'ai dit, dans l'éducation sentimentale, cette conversation politique, entre autres lors du dîner chez les Brandreuses, je l'ai cité, tous voulaient un sauveur. Et l'appel au bras de fer, cliché rassembleur, derrière lequel se cachent les différences entre les intérêts et les positions idéologiques des uns et des autres. C'est à l'opposé du dessin, du fameux dessin de Carandache, au moment de l'affaire Dreyfus. Ils en ont parlé, justement, ils sont sortis du lieu commun, et là, évidemment, la nappe est par terre, les verres cassés, les gens congestionnés, et sont prêts à s'étriper. Alors, dernier point, donc je disais, on voit sa fonction sociale. Deuxième fonction sociale, je disais, canaliser la violence, cette violence sociale, hein, cette violence, aussi canaliser, il y a une fonction thérapeutique du lieu commun. La fonction thérapeutique, c'est empêcher l'effondrement psychique des individus, tout autant incapables d'assumer leur propre violence émotionnelle que la force éruptive de la pensée déchaînée. Mieux vaut le refuge dans ces formes létales du langage, que sont les stéréotypes, que la folie ou la mise au ban de la société. Nathalie Serrault, et c'est ma conclusion, enfin c'est pas une conclusion, une dernière remarque, insiste sur les dangers insidieux de la bêtise avec lequel Flaubert comme elle-même ont appris à vivre. Et je cite Nathalie Serrault, « Je voudrais juste indiquer qu'aucun de nous n'est à l'abri. » Fin de citation. Et quand il vous arrive de vous trouver devant une de ces idées molles, inconsistantes, insaisissables, gélatineuses, gluantes, etc., si je reprenais l'isotopie flaubertienne, il ne suffit pas de dire, et c'est le titre, vous savez, d'un des textes de Nathalie Serrault, disent les imbéciles. Ce qui d'ailleurs pose le problème du dictionnaire des idées reçues. Pour finir, et vous faire entendre une dernière fois Nathalie Serrault, dans Isma, vous sentez par moments monter d'en bas comme des bouffées. Hein ? Ça vous revient des vieux airs charmants. Il n'y a rien à faire, n'est-ce pas ? On a beau s'en empêcher. Tout à l'heure, tenez, pour ne pas chercher bien loin, il aurait suffi de tendre un peu l'oreille. Et derrière nos échanges, mes amis, quel concert ! Avec presque tous les lieux communs. D'ailleurs, c'est pareil. Il n'y a qu'à en prendre un au hasard, n'importe lequel, le plus plat, le plus innocent, dans le genre de « quel été, hein ? Il n'y a plus de saison. » Ou bien « eh oui, le temps passe. Ah, ça ne nous rajeunit pas. » Ou « j'aime ce livre parce qu'il est un monument de langage. » Et à travers ça, ce qu'on pourrait percevoir, si seulement on voulait, si on osait. Mais justement, vous ne voulez pas. Il ne faut pas toucher aux lieux communs. Ils sont là pour ça, pour recouvrir, pour étouffer. Alors, tout à l'heure quand même, parce qu'il y avait un aspect que j'aurais voulu faire entendre, il y a une scène absolument formidable dans l'usage de la parole que je vous lirai.
Merci voilà. Beaucoup, c'était un exposé tout à fait passionnant. Et puis, cette parole de Nathalie Sarraute, aucun de nous n'est à l'abri, c'est tout à fait flaubertien. Enfin, c'est
oui, tout à fait.
Et c'est aussi barthésien, donc ça fait vraiment le lien entre les exposés. Et je pense qu'on a été tous sensibles à ces merveilleux passages que tu as lus et merveilleusement choisis de Nathalie Sarraute. Alors moi, je trouve ça, enfin, c'est absolument génial. Le seul ressentiment que j'ai contre Nathalie Sarraute, c'est qu'en fait, pour elle, son modèle, c'est Madame Bovary, et elle dit qu'elle n'aime pas Bouvard et Pécuchet.
Absolument.
On ne peut pas être parfait quand on n'aime pas Bouvard et Pécuchet.
C'est exact.
Alors, j'ouvre la discussion.
Je suis d'accord avec toi, parce qu'elle dit effectivement...
Oui, elle n'aime pas Bouvard et Pécuchet, alors que son œuvre, en fait, est dans la logique de Bouvard et Pécuchet. Beaucoup plus.
Oui, oui.
Celle de Madame Bovary, évidemment, pour la sous-conversation du lieu commun, mais c'est ce que
c'est
tu
vrai.
As tout à fait défini, cette anonyme... du sujet, tout ça, c'est dans la logique de Bouvard et Pécuchet, et elle n'aime pas Bouvard et Pécuchet, ça, j'arrive pas à comprendre. Mais bon, enfin, c'était son droit, évidemment, mais...
Oui, moi, ce que je reproche aussi, c'est d'être injuste avec l'éducation sentimentale.
Oui, c'est ça, voilà. En fait, elle n'aime que Madame Bovary.
Elle n'aime que Madame... Mais c'est très curieux, d'ailleurs, parce que si on y songe bien, je vous ai dit, quand elle va écrire... sur Flaubert, au fond, et quand elle va écrire contre l'éducation sentimentale, les Salammbô, c'est à peu près au même moment que Jean-Paul Sartre, hein, qui est aux armées, écrit dans ses carnets de la drôle de guerre ce qu'il pense effectivement du style marmoréen, etc. Or, encore une fois, évidemment, ils ne se sont pas lus, ils ne se sont pas concertés. C'est complètement indépendant. D'ailleurs, Sartre ignorait tout de Nathalie Sarraute à l'époque. D'ailleurs, je vous ai dit, son premier livre est de 1939. Bon, après. Mais vous voyez bien qu'il y a peut-être un phénomène, au fond, d'époque. Parce qu'ils vont dire la même chose. Et l'un comme l'autre se retrouveront sur Madame Bovary, puisque le dernier volume de L'idiot de la famille devait être consacré à Madame Bovary. Donc, il y a peut-être là quelque chose qui est l'éthos de l'époque, qui serait intéressante à analyser.
Et il y a le fait que c'est le livre phare de Flaubert,
évidemment.
Que Bouvard et Pécuchet est un livre beaucoup moins lu et qui n'émerge que dans les années 70. Hein,
mais elle le connaissait, parce qu'elle est quand même une femme cultivée. Donc,
oui, bien sûr.
Bien sûr.
Y a-t-il des remarques avant que Françoise lise le fameux passage?
Ah oui, parce que ça, je l'adore celui-là. Non, j'adore parce que vous allez voir, et ça permet de comprendre pourquoi elle aime Madame Bovary.
Je ne laisse même pas le temps. Vraiment.
Non, mais je ne lis pas tout de suite, attends, je ne sais pas. Ça explique parce que, il y a une chose que je vous ai dite, c'est que ce qu'elle aime dans Madame Bovary, et ce qu'elle ne doit pas sentir dans Bouvard et Pécuchet, c'est justement l'affleurement des passions qui couvent, des drames intérieur, des sensations, hein, derrière la platitude de la conversation. Et ça, je crois qu'elle considère que c'est là où Flaubert l'a magnifiquement rendu. Et c'est ça ce qu'elle veut faire. Elle ne veut pas faire un autre Bouvard et Pécuchet, elle ne veut pas faire un dictionnaire des idées reçues, elle ne veut pas simplement nous présenter des conversations où on n'échange que des propos convenus sur le temps qu'il fait ou sur la qualité des pommes de terre. Mais ce qu'elle veut nous montrer, c'est que là-dessous, du drame bouillonne. Du drame ou de l'affect, tout simplement. Hein? Et ça, je crois qu'elle l'a vu avec énormément de subtilité. C'est pour ça que le traitement du lieu commun par Nathalie Sarraute m'intéresse, parce que ce n'est pas simplement le lieu commun, c'est de montrer ce qu'il y a. Hein? C'est comme, si vous voulez, imaginez un fleuve gelé. Hein? Un fleuve est gelé, mais il n'est pas gelé dans sa totalité. Le fleuve est gelé, mais le courant continue par en dessous. Et c'est donc de montrer... Essayer, ce qu'elle voit chez Flaubert, notamment dans la scène des comices, mais dans bien d'autres, elle voit qu'il nous montre à la fois la glace et ce qui circule sous. Et elle, c'est ce qu'elle a voulu faire. Elle a réussi ou non, ça c'est un autre problème. J'arrête.
Pierre-Marc de Biasi.
Oui, merci François, c'était très bien exposé, très stimulant.
Je dis que je n'avais pas relu depuis longtemps Nathalie Sarraute, je n'étais pas sûre de l'aimer encore.
Non, mais c'est intéressant, parce que on vient aussi de pas jusqu'à explorer d'une manière parce que à la UNESCO, quand ils cherchent à imaginer des mises en scène de clichés au pied de la lettre, enfin, avoir du cachet, arriver un type qui a une forme de cachet, et puis il est déstabilisé, le type se fige et devient une espèce de colonne.
Dans le Château des Cœurs, il y a ça.
Oui, tu as raison. Il y a quelque chose de pré-ionesquien.
Oui. C'est ça, quand même. C'est la
où ça se déglingue.
Mais peut-être que dans le cas de Flaubert, c'est tellement associé à la fois au garçon, à la psychologie de copain, à la blague, et à aussi sa relative incapacité à faire du théâtre, qu'il y a là une limite. Quoi. Mais sinon, je pense que c'est présent, qu'il y a quelque chose de.
Je te remercie, tu as raison. Tu as raison. C'est pour ça, d'ailleurs, dans la présentation, c'est pour ça que je voulais aller jusqu'à la limite. Justement, c'est pour ça que j'avais choisi la cantatrice chaude, parce que vous voyez le point ultime, évidemment.
Et tu montres bien, d'ailleurs, je trouve que ce que dit Nathalie Sarraute, malgré son exclusif sur Madame Bovary, a finalement plus d'intensité politique.
Et puis c'est évident.
Et c'est
très curieux, ce que tu dis est très juste, parce qu'elle était très sensible à cet aspect, ce danger, ce terrorisme idéologique du lieu commun, elle y était particulièrement sensible. C'est curieux qu'elle, du coup, ça ne l'ait pas porté vers l'éducation sentimentale. À tort ou à raison, je pense qu'elle n'y a pas vu ce que j'indiquais, c'est qu'elle n'y a pas vu la circulation en dessous des affects. Ce qui est faux d'ailleurs, parce qu'elle l'a peut-être pas. Bien sûr, Madame Arnoux et Frédéric, elle n'a pas voulu le lire bien, à mon avis. Elle l'a expédié un peu trop vite. Mais je pense que c'est aussi un effet de mode, hein. Comme tu dis, on lisait, il y avait un effet de mode.
Mais pour des gens qui ont vécu la guerre, cette espèce de consensus ignoble.
Oui, oui, je suis d'accord avec toi.
La politique était portée par j'en pense autant pour ça.
Oui, oui, non, mais c'est vrai. Mais c'est pour ça que je signalais la chose. C'est très étonnant qu'ils se soient rencontrés dans le rejet des autres œuvres et qu'ils se soient retrouvés sur Madame Bovary.
Philippe Dufour.
J'avais peut-être une remarque sur l'association du tropisme et du truisme qui finit donc par tisser le dialogue. Je crois que tu disais cela à propos de Sarraute, mais il me semble chez Flaubert qu'il y a au moins certains moments aussi où il y a cela, en particulier dans la représentation de 1848, hein, quand on voit D'Ambreuse et Martineau utiliser le dictionnaire des idées reçues des autres, ils se donnent le mot à ce moment-là. On voit leurs répliques s'enchaîner de façon presque,
absolument,
presque automatique.
Exactement.
Et ça n'est pas de l'ordre de l'inconscient.
Non. C'est pas de l'inconscient, c'est du non-conscient verbal, d'une certaine manière. À un moment donné, le truisme prend la main. Dans le langage. Et ça, c'est très intéressant. Et Nathalie Sarraute, ça l'analyse, enfin, le montre bien.
Ils n'ont pas tellement de tropisme. Le tropisme, ça évoque une sorte de conscience intérieure. On n'a pas du tout accès Là, c'est véritablement du cliché du cliché je pense que tu
fais
qui sont cités consciemment, qui sont cités comme des. Enfin, tu penses à la scène avec Frédéric.
Enfin, une sorte de mauvaise foi.
Nous sommes tous ouvriers, plus ou moins, dit D'Ambreuse.
Il joue à être 48
ans. Oui, voilà, mais là, le côté inconscient du tropisme, je le vois.
Oui, moi. Non, justement, ça n'est pas de l'ordre de l'inconscient.
Non, c'est pas de l'ordre de l'inconscient.
Oui. C'est plus du truisme que du. Alors, cette page.
Non, mais c'était juste pour éclairer, parce que pour ceux qui ont lu Nathalie Sarraute, c'était pour éclairer ce point qui, pour moi, est très important et d'essayer de faire comprendre à l'aide de cette métaphore du fleuve gelé, mais quelque chose qui circule par en dessous, bon, c'est dans l'usage de la parole, une situation d'une banalité extrême, hein. C'était au fond d'un petit café enfumé, mal éclairé, probablement d'une buvette de gare. Il me semble qu'on entendait des bruits de train, des coups de sifflet, mais peu importe. Alors, je saute, parce que ça serait trop long, et le narrateur, ou celui qui parle ici, entend des voix. Je ne les perçois pas non plus avec netteté, je ne saurais pas les reconnaître. Ce qui me parvient maintenant, ce sont les paroles que ces voix portent. Et même pas les paroles exactement, je ne les ai pas retenues. Mais cela ne fait rien non plus. Je peux facilement inventer des paroles du même ordre, les plus banales qui soient, de celles que deux personnes étrangères, l'une à l'autre, peuvent échanger au cours d'une rencontre quelconque, à une table de café. Est-ce sur le goût de ce qu'elles boivent ? Une orangeade ou bien du thé, ou sur les avantages et les inconvénients des voyages en train, en avion, ou sur n'importe quoi. Je vous laisse, si vous le voulez, en imaginer d'autres. Mais ce que je ne veux pas vous laisser, ce qui dans ces paroles, pour quelques instants, m'appartient, ce qui m'attire, me taquine, c'est je ne sais pas. C'est peut-être cette impression qu'elle donne, de légèreté. Elle semble voltée, aérienne. On dirait que ce qu'elle porte, le goût de la grenadine, la fatigue des voyages en train. Tu vois, ça c'est... Elle parle du voyage en train de manière banale, mais la sensation pèse. Bon, la sensation pèse. Ce qu'on peut trouver de plus banal, de plus modeste, de plus discret, ne les emplit pas complètement. Laisse en elle des espaces vides ou quelque chose qui ne peut trouver sa place nulle part, dans aucune parole. Aucune n'a été prévue pour le recevoir. Quelque chose d'invisible, d'impondérable, d'impalpable est venu s'abriter. Ces paroles peu lestées, dilatées, s'élèvent, flottent, légèrement ballottées, se posent doucement et fleurent à peine. Alors, on pourrait, en observant ces paroles porteuses de platitude et la légèreté avec laquelle elles se posent et fleurent, rebondissent, les voir pareilles à des cailloux minces et plats voltant, faisant des ricochets. Et on va découvrir, j'abrège, que finalement, ce qui se dit dans la sous-conversation, d'abord, il se dit... Il y a la conversation et la banalité. Deux choses apparaissent. Premièrement, la sensation, en même temps. Hein, on parle de « Ah, c'est fatigant les voyages en train ». Mais quelque chose de la fatigue du voyage en train se dit en sous-main. Donc la sensation que Nathalie Sarraute pense retrouver dans Madame Bovary, cet usage finalement de la parole, tout ça. Et deuxièmement, l'affect, parce que finalement ce qu'elle va dire, qu'elle va nous dire à la fin, que ce qui ne se dit pas mais qui est là, c'est quelque chose qui s'appellera la naissance de l'amour. Hein, ce mot qui n'est jamais prononcé, qui lui vient, hein, faisant un grand vacarme, mais on ne l'entend pas, c'est un vacarme silencieux, le mot amour, la naissance de l'amour. Donc c'est ce fonctionnement du langage, j'ai abrégé parce que sinon ça aurait été trop long, même si j'ai beaucoup de texte, je vous y reporterai, eh bien il me semble que c'est ce qu'elle aime, c'est ce qu'elle apprécie, notamment dans la scène des communes agricoles.
Ben, écoute, merci beaucoup, on va faire maintenant...